Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 1er juin. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Martin,
bonjour à Martin.
Tous. Bonjour bon, à tous.
T'as pas été prise au dépourvu quand même, il y a une lumière rouge. aujourd'hui, un sommaire copieux et puis on va surtout parler de films qui sortent aujourd'hui, enfin d'un film. Hein.
Oui, alors entre autres des sorties, parmi les sorties d'aujourd'hui, il y a Le Chat du Rabbin, voilà, que nous avons déjà vu et dont nous allons discuter un petit peu, je présenterai le film. Et après, ce sera place au débat, même si je pense qu'on sera plus ou moins d'accord sur les qualités de ce film. Ensuite, je vous parlais d'un film alors qui est sorti maintenant depuis un petit moment, mais j'étais pas là la semaine dernière pour vous en parler. Il s'agit de The Tree of Life, palme d'or du Festival de Cannes de cette année. Vincent l'avait encensé dans la dernière émission. Moi, je vais en dire plutôt du mal, puisque voilà, j'ai été déçu par le dernier Terrence Malick. Et enfin, en toute fin d'émission, je devrais vous quitter pour aller travailler, mais je resterai virtuellement ici pour interviewer rapidement Nicolas Alberni, un des co-réalisateurs de Eight Wonderland, qui est projeté au cinéma Utopia.
C'est demain, ouais.
Demain soir.
Donc ce sera dans la partie actu en toute fin d'émission. Et puis, quant à toi, Marine, voilà, tu as vu un film.
Oui, je vous parlerai du complexe du castor de Jodie Foster avec Mel Gibson, l'occasion de dire quelques mots sur sa carrière.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de la défense Lincoln. Et ce sera l'occasion, comme il est question d'un avocat, eh bien, ce sera l'occasion de faire un blind test, encore une fois, et de jouer avec les films qui concernent les avocats et plus largement la justice. C'est Cinérama, vous êtes sur Divergence FM.
Alors pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'aller voir Cadmerade dans Monsieur Papa, et pour ceux qui n'en ont rien à faire des super-héros américains, vous pourrez dès aujourd'hui aller vous précipiter en salle pour découvrir Le Chat du Rabbin de Johann Sfar en 3D dans les salles équipées et en 2D chez les autres. Et comme nous sommes des impatients à Cinérama, nous sommes tous les trois précipités sur l'avant-première qui se déroulait lundi soir au Diagonale, histoire d'en discuter un petit peu et de vous donner envie d'aller voir ce superbe petit film. Alors après son premier long métrage, Gainsbourg vie héroïque, sorti l'année dernière, le bédéaste Johann Sfar continue d'explorer les possibilités du 7e art et se tourne aujourd'hui vers le cinéma d'animation. Pour son nouveau projet, il fait le pari d'adapter sur grand écran une de ses propres séries de bandes dessinées à succès, Le Chat du Rabbin. Pour mener à bien cette noble entreprise, il s'associe à Antoine Delvaux et Clément Oubrerie pour fonder d'une part la société de production Autochenille et d'autre part le studio d'animation Banjo Studio, donc deux structures qui leur ont permis de financer et de réaliser ce projet. A noter que plusieurs autres adaptations de BD attendent dans les tiroirs d'Autochenille Productions, dont celle d'Aya de Youpougon, fameuse série de Marguerite Aboué et Clément Oubrerie. Alors Le Chat du Rabbin nous entraîne dans l'Algérie du début du XXe siècle et nous raconte les aventures du rabbin Sfar, de son chat, de sa fille et de toute une galerie de personnages hauts en couleur. Tout commence lorsque le chat du rabbin croque le perroquet bavard de son maître et gagne du même coup la parole. Une fois la surprise passée, le rabbin s'étonne de voir que son chat, qu'il considérait jusqu'alors comme un animal aimant mais stupide, s'avère être en fait un menteur et un polémiste de premier ordre.
Le rabbin ne veut plus me laisser seul avec sa fille. Il a peur que je lui mette des mauvaises idées en tête. Alors, il me garde avec lui. Je m'ennuie.
Qu'est-ce que tu lis, maître ?
Le Talmud.
Et c'est intéressant ?
Ça explique comment être un bon juif. Par exemple, on y dit que mentir, c'est très mal.
Tu crois que je dois me sentir concerné ?
Pourquoi pas ?
Ah, je suis juste un chat. Et je ne sais pas si je suis juif ou pas.
Mais bien sûr, tu es juif, puisque tes maîtres sont juifs.
Je ne suis pas circoncis.
Ah, les chats, on ne les circoncis pas.
Je n'ai pas fait ma bar mitzvah.
La bar mitzvah, c'est à 13 ans révolu.
Mais moi, j'ai 7 ans. Et comme cette fois, 7,49 chez nous, les chats, j'ai donc presque ton âge. Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah.
Alors en partant de ce prétexte fantastique, plus proche du conte que du récit réaliste, Johann Sfar et son co-réalisateur construisent leur histoire par petites touches, avec beaucoup d'humour, et posent quelques questions fines sur la foi et les religions. Le choix de situer l'action entre Algérie française et Afrique en pleine période coloniale leur permet aussi de mettre en scène le racisme et l'antisémitisme quotidien de l'époque. Mais plutôt que de forcer le trait, ils préfèrent y aller en douceur et ridiculiser plus ou moins gentiment tous les communautarismes et les fanatismes, quels qu'ils soient, pour mieux prôner au final l'amitié entre les hommes. Au passage, Sfar en profite pour régler son compte à l'un des plus grands noms de la bande dessinée, dans une séquence assez hilarante dont je vous laisse la surprise. Et au final, en servant de tribune à un chat espiègle et impertinent, ce film réussit à faire passer un vrai message d'amour et de tolérance, tout en évitant d'être moraliste. Alors encore une fois, Le Chat du Rabbin vient contredire ceux qui persistent à penser que l'animation ne s'adresse qu'aux enfants. On s'est posé la question de savoir si ce film conviendrait aux plus jeunes, et notre conclusion est que s'il peut sans doute séduire les collégiens, leurs petits frères et petites sœurs risquent de s'ennuyer un petit peu, parce que le scénario est plutôt du genre bavard. Mais pour tous ceux qui ont 10 ans révolus, ne ratez surtout pas ce film. On retrouve le style graphique très particulier de Sfar, dont on avait pu voir un bref aperçu dans le générique de Gainsbourg. On est charmé par les couleurs magnifiques et l'alternance rafraîchissante entre un trait parfois grossier et un souci du détail hérité des peintres algérois à qui Sfar dédiait d'ailleurs le premier album du Chat du Rabbin. On retrouve aussi le sens de l'absurde et l'humour caustique de la bande dessinée, avec de nombreuses séquences et dialogues qui sont repris au mot près. Et on se laisse embarquer avec bonheur dans cette équipée en auto-chenille Citroën à la recherche d'une mythique Jérusalem africaine. Alors pour les fans de la BD, ne vous attendez pas non plus à une adaptation littérale des albums. Plusieurs personnages et certains développements de l'histoire originale ont disparu pour être remplacés par d'autres. Format long métrage cinéma oblige. Alors pour terminer, le casting vocal peut déconcerter de prime abord, mais au final il donne à ses personnages une identité forte qui les rend particulièrement attachants. Le ton est sobre, ce qui est plutôt original vu que le cinéma d'animation a souvent tendance à jouer la carte de l'outrance. François Morel prête sa voix et ses miaulements au chat, Maurice Bénichou s'occupe de faire parler le rabbin et les deux compères sont plutôt bien entourés puisque le reste de la distribution comprend Mathieu Amalric, Afzia Herzi, Eric Elmosnino ou encore Jean-Pierre Calfon. Voilà donc un film plein de poésie, de joie, un bon petit remède à la morosité et à la bêtise que je vous recommande chaudement.
À noter aussi que dans les voix, la voix de la fille du rabbin, c'est Marguerite Aboué, donc qui est aussi auteure de BD. Paraît-il que c'est l'une d'ailleurs qui a vendu le plus de BD ces derniers temps. Et elle figure dans les projets dont tu as parlé.
Voilà, parce que c'est vrai que sa série Aya de Youpougon a vraiment fait un carton. C'est une très bonne BD d'ailleurs.
Alors, des commentaires sur Le Chat du Rabbin. Marine.
Moi personnellement, enfin, je trouve ça toujours très réjouissant en fait de voir un film d'animation qui aborde des sujets d'adultes. Donc là, je trouvais que pour le coup, c'était très bien traité avec beaucoup d'humour. Ça m'a renvoyé, je pense, comme beaucoup de personnes, à Persepolis. Même si quand même le graphisme, je pense, de Persepolis était plus intéressant. Là, c'est vrai que le graphisme m'a pas vraiment marqué. J'ai pas été transportée.
Mais dans les deux cas, hein, que ce soit Persepolis ou Le Chat du Rabbin, on peut noter que c'est vraiment un trait singulier. Enfin, et voilà, le dessin de Johann Sfar, de toute façon, enfin, est vraiment très très particulier aussi. Et moi, je pense que c'était très beau justement, enfin, de voir ce style-là à l'écran. Moi, j'ai regretté. Alors, on m'a expliqué que c'était pour des questions de coût, hein, mais j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus d'animation au niveau des éléments. Et je pense notamment même à la bande sonore, enfin, qui m'a pas vraiment retourné. Et puis les éléments comme l'eau, l'air, voilà, ça, on a l'impression que ça ne bouge pas. Ça bouge que si un des personnages touche l'eau, par exemple. Oui, là, l'eau, elle bouge. Sinon, elle ne bouge pas. Enfin, voilà.
C'est
plus des tableaux qui s'enchaînent.
C'est assez minimaliste. Et oui, c'est vrai que tu utilises le terme de tableau. Mais vraiment, il présente les albums, Le Chat du Rabbin, comme des hommages à ces peintres d'Alger. Donc je pense qu'il y avait aussi cette envie de faire quelque chose d'assez statique, vraiment des tableaux de l'Afrique. Et on retrouve bien cette idée. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un charme dans ce graphisme un peu grossier. Le chat change d'aspect au fur et à mesure du film. Et il y a certains passages où l'animation déraille, le trait devient d'un seul coup plus enfantin ou alors complètement délirant dans des scènes de cauchemar, par exemple, de rêve. Mais oui, c'est vrai qu'après, le style graphique est assez particulier.
Et puis notons la fin hein, qui est plutôt surprenante. Alors elle n'est pas surprenante dans l'histoire, mais plutôt c'est la manière. Enfin, c'est comment plutôt il l'amène, voilà, cette fin. C'est enfin, pour le coup, une vraie surprise. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai été assez surpris de m'apercevoir que c'était la fin.
Oui, c'est vrai que c'est assez...
c'est assez décontenant.
Assez brutal,
comme
point
de vue du scénario. Hein.
Mais bon, voilà. En même temps, voilà, il a compressé 5 albums en un film d'une heure 30, je crois, à peu près. Donc forcément, il a dû avoir des coupes dans l'histoire. Il a peut-être aussi un peu... tranché dans la conclusion de la série BD, que j'ai lu quelques albums mais pas dans son intégrale.
J'ai lu les trois premiers, alors effectivement il y a plein de personnages qui sautent et je pense que c'était impossible tout simplement d'en faire un film avec tous ces tomes.
Mais c'est vrai que oui, la fin est un petit peu abrupte, en même temps elle est suffisamment ouverte pour... je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez fin de terminer comme ça sans affirmer une sorte de grande morale comme dans un conte ou sans... sans vraiment clôturer son récit, le fermer définitivement.
Mais c'est assez fidèle d'ailleurs à l'esprit qui se dégage du chat du rabbin, enfin déjà dans la BD, hein, c'est-à-dire que c'est de nous faire poser des questions et puis ou de mettre en question. Donc à chaque fois, voilà, c'est des discours philosophiques finalement.
Oui,
voilà.
J'ai justement l'impression que le scénario finalement n'est qu'un prétexte à ça. Donc à la limite, la fin, c'est pas très important parce que toute l'histoire n'est que prétexte à justement poser des questions sur la religion.
Et même la fin est complètement imaginée. Enfin, voilà, c'est un personnage qui... Enfin, donc, c'est même un pied de nez, quoi. Finalement, on vous raconte des histoires, oui, mais on peut la terminer comme on veut, quoi.
Oui, bah c'est un peu Conte de mille et une nuits aussi, je pense qu'il y a cette idée. Et en effet, il ne répond pas aux questions philosophiques qu'il pose tout au long de son film. Il laisse le spectateur faire le travail plutôt que de donner des réponses un peu préconçues.
Et il a raison.
Ouais.
Et il a raison.
Pour en finir avec ça, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film.
Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel.
Le monde fut créé par l'Éternel, notre Dieu, en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières.
Mais c'est ridicule! Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années.
Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris.
Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités.
On devrait te noyer tout de suite! Oh.
Moi, je suis ma maîtresse et je ne serai jamais seul car je mourrai avant elle.
Oh, mon petit amour.
Tu aimes plus le chat que ton père, toi, hein?
Ne pas te laisser cette bête.
Peut-être il est dangereux.
Hé, hey, vous venez, on va envahir l'Afrique!
Traverser l'Afrique pour trouver Jérusalem, n'importe quoi.
J'ignorais qu'il y eut des Israélites aussi loin en territoire nègre.
Il nous prend pour des demeurés.
Hé, hey, chef, toi, y'en a pas griffé, moi.
Ça suffit!
On est encore tombé chez des dingues.
Ouh là là, c'est super!
Hé, hey, les amis, quand le monde aura fini, je pourrai faire ma bar mitzvah, moi aussi.
Tiens, rends-toi utile.
Oh, combien le péril enrichirait les dieux.
Les dieux?
Oui.
Non, ça va pas.
Bien, le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va?
Oui.
Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers.
Voilà le chat du rabbin de Johann Sfar et Antoine Delvaux, donc qui est projeté en 3D. On n'a pas parlé aussi, nous on l'a vu en 2D. 2D. Je ne sais pas ce que la 3D peut apporter à ce type de dessin. Mais c'est
pour les enfants déjà, je pense que ça peut les emmener encore plus dans ce monde imaginaire.
Voilà, donc vous pourrez aller le voir en 3D, je pense au Multiplex, au Gaumont, et en 2D, au Diagonal entre autres.
Merci Martin, on passe bien tout autre chose, c'est La Défense Lincoln réalisée par Brad Furman. La Défense Lincoln tombe plutôt bien, le film est en phase avec l'actualité qui concerne DSK et ses ennuis judiciaires. Vu le traitement de l'affaire à grands coups de cet affreux, la justice américaine n'est pas comme la nôtre. On n'apprendra pas grand chose de cette fiction qui met en scène un avocat qui a pour particularité de bosser dans sa voiture. Son bureau, c'est une grosse Lincoln avec chauffeur habitant les bas-fonds. Alors c'est pas banal et c'est inspiré de la pratique bien réelle et fantaisiste d'un avocat que Michael Connelly, l'auteur du roman, adapté à l'écran, a rencontré devant une partie de baseball. Alors Michael Connelly, qui avait vu un autre de ses romans adaptés à l'écran par Clint Eastwood, il s'agissait de Créance de sang. Un avocat séduisant, donc grande gueule, atypique, prêt à défendre n'importe qui, et y compris les plus coupables de ses clients, comme ces motards barbus qui le pistent dans les rues de Los Angeles pour prendre rendez-vous avec lui et qui se livrent au trafic de drogue sans relâche. En résumé, il est plutôt dans la défense des petites frappes et trafiquants de drogue. Mais ça va changer, car cet avocat est contacté par une riche famille de Los Angeles pour défendre le fiston, qui est accusé d'avoir porté des coups à une prostituée dans le but certain de la tuer. Notre avocat, Michael Haller, sûr de son talent, demande le prix fort et bingo, c'est accepté. Mais la victoire n'est peut-être pas aussi facile. Le présumé coupable dit « je suis innocent », l'avocat ne demande qu'à le croire. Mais au fil du procès, l'avocat Haller s'aperçoit que son client n'est pas la douce brebis victime, comme il le crie, d'une odieuse machination. Cas de conscience alors pour Haller, qui permet à son client de sortir de prison avec la remise $1 million de caution et un bracelet électronique. Et là on voit que ça a vraiment un retentissement avec l'actualité. Alors il se demande, dois-je continuer à innocenter quelqu'un que je crois coupable ? Le geste est-il beau ? Alors on a à peine le temps de répondre à ces questions que le client se fait un tantinet menaçant envers son avocat. Du coup, l'avocat est obligé, bien malgré lui, de jouer un double jeu, défendre son client et se défendre lui-même contre les représailles de ce même client.
Si vous vous demandez comment je suis entré, un agent immobilier sait toujours comment entrer dans la maison d'un ami.
On n'est pas amis. Vous êtes mon client. Je suis votre avocat.
Mon avocat. C'est exactement ça que je suis venu vous remettre en mémoire. On va bientôt se retrouver au procès. Et soudain, j'arrive plus à vous joindre.
Je vous demande de vous en aller.
D'accord. C'est une très jolie photo de votre fille, allez. Très mignonne. Elle a un entraînement de foot
non.
Demain.
Vous croyez être le premier client à nous menacer, moi et ma famille. J'ai juste dit qu'elle était mignonne. Est-ce que vous avez la trouille ? Parce que vous êtes dans une situation dangereuse. Vous faites bien d'avoir peur.
Procédé habituel hein, pour mettre la pression hein, en regardant la photo de la petite fille. Alors quand je disais que ce film nous rappelait l'affaire DSK, c'est aussi que le système américain donc instruit à charge. Il y a un coupable selon les premiers éléments et c'est à la défense donc de prouver le contraire en se servant des éléments de l'enquête de police ou en enquêtant plus à fond. Et c'est précisément ce qui est suivi dans ce film. L'avocat Alan Lincoln et son détective chevelu et moustachu exploitent les éléments de l'enquête de police, les rapprochent d'une autre affaire de meurtre au mode opératoire similaire et du coup ils se lancent dans une enquête plus approfondie sur leur client. Alors est-il celui qu'il prétend être, un jeune fils de bonne famille ou un tueur de prostituées ? L'intrigue est bien menée. Au début, on ne sait pas sur quel pied danser ou jurer. Et puis, au milieu du film, l'intrigue bascule et on doit recomposer le puzzle. L'avocat pris entre deux feux, l'innocence et la culpabilité, doit avancer prudemment pour gagner sur deux tableaux, gagner son procès et parvenir quand même à enfermer son client pour une autre affaire. Une histoire pas banale à laquelle donc on adhère, d'autant plus facilement qu'il n'y a pas de pesanteur morale, même si le cœur du film serait « Peut-on défendre l'indéfendable ?». La mise en scène conjugue image fixe de procès, trajet dans la Lincoln, petit moment de détente et discussion entre avocat et procureur, le tout dans le métissage. Un intérêt de la défense Lincoln est de nous montrer un Los Angeles des vieux quartiers, de sa banlieue tentaculaire, de son atmosphère et des communautés qu'il compose. On est loin des films où les avocats filent de procès en dîner et entrent à tout bout de champ dans de grandes maisons ou de grands buildings à discuter millions de dollars. L'atmosphère de la défense Lincoln permet de s'éloigner donc de la caricature. La composition de Matthew McConaughey, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, voilà, qui incarne l'avocat à la Lincoln, est impeccable. Alors il faut dire qu'il a du charisme. Cet acteur a la gueule de l'emploi pour les comédies romantiques surtout, et il avait quand même joué un avocat dans Le droit de tuer de Joel Schumacher aux côtés de Samuel Lee Jackson, et fut également le défenseur des esclaves d'Amistad dans le film de Steven Spielberg. Donc, la défense Lincoln, d'ailleurs, le titre original, c'était de Lincoln Lawyer. Donc, c'est plutôt l'avocat à la Lincoln, voilà. Est projeté à l'Athénée de Lunel, au Gaumont Multiplex à Montpellier et au méga CGR de Latte. Voilà. Alors, ce film est l'occasion pour nous de jouer avec un blind test donc, qui va concerner les avocats et puis la justice en général dans les films. Alors il y avait plein de films hein, à trouver forcément, moi j'en ai choisi 7.
Vous pouvez m'appeler à Memphis n'importe quand, j'aurai nuit. Le deuxième numéro, c'est mon bip.
Je récapitule. Je vole les dossiers à la firme.
que je remets ensuite au FBI. Je témoigne contre mes collègues et je les envoie en taule.
C'est eux qui vous ont niqué.
Si je divulgue certains éléments secrets, je détruis la confiance client-avocat, je suis radié du barreau et je suis amené à déposer contre la mafia.
Eh bien, malheureusement, Mitch...
Répondez franchement. Est-ce que vous êtes fou ou malade ?
Dans combien de temps ils apprendront que le copain de cellule de Lomax était le dénommé Ray McDear ? Et quand ils le sauront, qu'est-ce qu'ils lui feront, d'après vous ? Ils atteignent n'importe qui, n'importe où.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Votre frère espère une remise de peine dans quelque temps, non ? Alors collaborez avec nous, et je garantis la clémence de la commission. Autrement, vous savez comment ça se passe, ce genre d'audition ? Pour un rien, ça bascule.
La petite musique angoissante, on propose à quelqu'un d'être une taupe.
C'était vicieux de commencer par ça, c'est le doubleur de Bruce Willis.
Tom Cruise.
Non, c'est quand même Tom Cruise là. Oui, c'est vrai que ça donnait une indication, ça, si on repérait la VF. Ouais. C'est Tom Cruise. Alors ça a été trouvé en régie et à ma gauche.
Je pense. Il le dit même dans le dialogue.
Oui. Ouais. Bah, j'ai voulu commencer facile, donc bien c'est La Firme, hein, film de Sidney Pollack, grand film long. Et bien qui montre un jeune avocat qui, au bout d'un moment, va se retrouver dans un cabinet véreux. Hein, et le FBI va lui proposer d'être une taupe. Voilà. Ça arrive souvent dans les scénarios. Et on en a la preuve avec un film français cette fois-ci.
Qu'est-ce que vous foutiez ? Je croyais que c'était aujourd'hui que vous deviez intervenir.
J'ai sauvé votre peau, Léo. On a pu vérifier ce qu'il devait charger avant que ça n'arrive au port. Que du papier, pas un déchet.
Faites chier !
Ils sont devenus méfiants.
J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. J'en ai ras-le-bol ! Ça fait trop longtemps que ça dure !
Vous avez signé avec nous. On est les seuls à savoir que vous êtes un agent. Vous l'arrêtez ? Vous serez plus qu'un avocat qui bosse pour le milieu, et on vous bouclera peut-être pour ça.
Ah ouais ? Et moi, peut-être que je vous buterai pour ça, hein ?
C'est calme, Léo. Faut tenir. C'est juste un peu plus long que prévu.
Pourquoi vous l'arrêtez pas ? Avec la tonne de délits que vous avez contre lui, vous l'arrêtez pas ? Non mais, il a tué des gens, non ? Le mec tue des gens et vous le coincez pas, putain de merde ! Vous attendez quoi ? Qu'il me coule dans du béton ?
On monte un dossier, ça prend du temps, vous le savez.
Des conneries, ouais. Je veux que ça s'arrête, j'en ai marre.
Accroche-toi encore un peu. On est à ça. À ça. Je devrais pas vous le dire, l'opération est prévue pour demain. Chargement pour la Chine, que vous nous avez indiqué. Aujourd'hui, ils n'ont fait que tester si la voie est libre et on a eu raison de ne pas intervenir. Leur bateau n'est pas vraiment parti, il est rentré au port il y a 2 heures. Demain, il ne repartira pas avec du papier.
Alors, eh bien, je vois que ça sèche hein, quand même dans les studios. C'est un film qui est sorti en janvier 2011, hein, donc c'est vraiment un film qui est sorti il y a peu. On a entendu Benoît Magimel et Eric Caravaca. Benoît Magimel est un avocat, un brillant avocat, qui est au service de Gilbert Melki, qui s'occupe bien d'une entreprise de ramassage d'ordures.
Ça a été tourné pas loin d'ailleurs.
Et ça a été tourné, oui, à Sète et à Montpellier, effectivement. Un film de Cédric Anger qui s'appelle L'Avocat. Voilà, donc là, il n'y avait pas à chercher très loin. Donc, et ce qui est intéressant, hein, quand on le met en opposition, enfin, quand on le met à côté de La Firme, on entend. Enfin, déjà le son à la française un peu, et puis ce côté réaliste, bien plus réaliste que ce qu'on a entendu dans l'extrait de La Firme, où Tom Cruise parle avec le type du FBI. Et là, on sent qu'il y a un vrai énervement. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus senti de la part de Benoît Magimel. Donc, c'était plutôt un bon film, en tout cas un film noir.
Pour qui tu le portes, ton sac de briques ? Dis-moi, Kevin. Dieu ? C'est ça ? Dieu ? Tu sais quoi ? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire ? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ils se font la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme ! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste.
Alors voilà, bon, forcément c'est une version française, mais on entend Al Pacino, celui bien qui se prend cette espèce d'explication, sermon, c'est Keanu Reeves, voilà, donc c'est...
L'associé du diable. C'est un peu comme le chat du rabbin, hein, d'ailleurs, ça ouvre le dialogue sur la religion, avec un certain point de vue.
Bah disons que là c'est un peu plus forcé comme trait, hein, ouais. Et c'est là-dedans hein, qu'il y a cette fameuse phrase, mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Et donc c'est ce que dit Al Pacino à Keanu Reeves, qui là joue un avocat qui de toute façon refuse de perdre. Voilà, c'est le type qui a la gagne. On passe cette fois-ci alors un film avec alors l'élément, enfin l'extrait sonore choisi. On va entendre un élément très très important pour ce film, et c'est un grand grand classique du cinéma.
Monsieur Miller, vous avez réussi à introduire votre viol dans le débat, et je crois que tous les détails devront être clairement exposés au jury. Êtes-vous d'accord, Monsieur Ludwig ?
Absolument, Votre Honneur.
Quel était exactement le sous-vêtement en question ?
Un slip, Votre Honneur.
Vous croyez qu'on aura à en reparler ?
Oh, ça oui.
Ce mot de slip a un côté suggestif qui me paraît dangereux. On ne pourrait pas en trouver un autre.
Je n'ai jamais entendu ma femme appeler ça autrement.
Monsieur Bigler ?
Je suis célibataire, Votre Honneur.
Ça nous avance bien. Monsieur Dancer ?
Je ne suis pas expert en la matière, Votre Honneur. Mais qu'on l'appelle slip ou culotte, l'un et l'autre terme paraissent aussi suggestifs.
C'est bien mon opinion. Eh bien, messieurs, tant pis, reprenez vos places. Pour l'information du jury, mais plus spécialement pour le bénéfice de l'auditoire, le sous-vêtement auquel le témoin vient de faire allusion était, pour être précis, le slip de Madame Magnon. Je vous laisse donner libre cours à votre hilarité une fois pour toutes. On parlera plusieurs fois du slip en question au cours des débats qui vont suivre. Et quand cela arrivera, je n'admettrai ni un souffle, ni un sourire, ni un rire, et encore moins des ricanements dans ma salle d'audience. Discuter au sujet d'un slip n'a vraiment rien de comique lorsqu'il s'agit de la mort violente d'un être humain, et peut-être aussi de l'incarcération d'un autre. Continuez, monsieur Bigler.
Alors,
est-ce que ce serait pas 12 hommes en colère ?
Ah non.
Non ?
Non, non, non.
Un côté vieux ouais. Patine sonore.
Ouais, c'est sûr. Mais comme
mais ça se passe alors... intégralement dans le délibéré, non, 12 hommes en colère.
Oui, il me semble voilà, qu'il n'y ait pas question de viol non plus dans ce film.
Non, il est question d'un parricide dans 12 hommes en colère. Non, là, c'est effectivement. Enfin, c'est pas totalement huis clos le film, mais c'est dans ce film, il y a énormément de scènes de tribunal. Et cette scène a posé problème, d'ailleurs, cette scène du slip. On était en 1959 et le mot slip est répété plein de fois. Et un autre mot avec sperme, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, en tout cas, il y avait sperme aussi dans l'autre mot. Et donc, ça a été touché par la censure. La censure a révisé, a dit non, c'est pas possible de préciser, comme ça, de parler de slip autant de fois. Voilà. Ça, c'est Anatomy of Murder. Ah. D'Otto Preminger, film de 59 avec James Stewart qui joue un avocat qui est complètement fauché, qui accepte une affaire et puis ça va le relancer complètement. Et c'est une vision critique ironique hein, sur le monde judiciaire où au bout d'un moment on voit un avocat et puis un procureur se faire des joutes verbales et on se demande si c'est plus important d'avoir la vérité que de jouer le beau rôle. Voilà. Grammy Award aussi. Alors, à noter la musique originale de Duke Ellington. Hein. Voilà, il avait reçu un Grammy Award et puis là, il y avait eu les Lions d'Or, les Oscars. Voilà, c'est un grand classique du cinéma, Anatomy of Murder d'Otto Preminger. On va être un peu plus léger cette fois-ci.
Vous êtes fou ou quoi ? Appelez-moi.
Je suis condamné à dire la vérité. Je ne peux rien faire de malhonnête avant 20h15 ce soir.
Écoutez-moi, espèce de salaud. Je veux mon pognon. J'ai pas envie de me retrouver une fois divorcée au RMI à 31 ans parce que mon salopard d'avocat a soudain découvert qu'il avait une conscience.
31 ans.
Si vraiment Maître Reed n'a plus de témoins, alors je n'ai pas d'autre option que de prononcer un jugement favorable.
Monsieur le Président !
J'appelle Samantha Cole, ma cliente.
Silence. Silence. Silence.
Vous avez fermé vos gueules.
Veuillez vous rasseoir. Maître Reed, je vous avoue que ce n'est que par curiosité plutôt morbide que je laisse un tel fiasco se prolonger. Madame Cole, si vous avez le courage.
Alors,
c'est Jim Carrey.
Oui.
Menteur, mmh. Menteur.
Voilà, c'est Menteur, Menteur.
C'est un des tout premiers films que j'ai vu quand j'étais petite, toute seule au cinéma.
Oula.
Ouais.
Et alors, souvenir ému ou...
Oui, ouais. Ça devait être juste après Titanic.
Ouais, c'est, bon, c'est un peu bizarre. Bon, effectivement, il y a toute une partie du film qui se passe forcément au tribunal, puisqu'il est avocat, il ne peut plus mentir. Donc ça fait des scènes complètement, soit horripilantes, soit un peu agaçantes. Voilà. On retrouve cette fois-ci les grands classiques du cinéma.
Vous êtes tous venus ici, le cœur débordant de grands principes à appliquer en vertu d'une saine justice. Vous écoutez un vrai conte de fées, et tout à coup, vous voilà en train de vous faire posséder. Eh bien, je n'ai aucune intention de marcher, j'en ai assez. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein? Vous savez qu'il est coupable et qu'il faut qu'il paye, et vous le laissez filer entre vos doigts.
Comment on le laisse filer? Êtes-vous chargé de l'exécuter?
Parfaitement!
Peut-être voudriez-vous abaisser la manette?
Pour ce gosse, je suis tout prêt à le faire.
J'en suis désolé pour vous, je n'en vis pas celui qui devra abaisser la manette. Depuis que vous êtes ici, vous vous conduisez comme si vous aviez mission de venger la société. Vous voulez que ce gosse meure parce que vous y tenez personnellement et non pas à cause des faits.
Vous êtes un sadique. Vous, laissez-moi,
vous avez réellement l'intention de me tuer?
Quelque chose qui cloche, messieurs? J'ai entendu du bruit.
Oh, non, 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 tout marche à souhait. Nous avons eu... Ce n'est qu'une petite querelle d'amis, c'est tout. Nous avons terminé l'étude de ce plan. Reprenez-le, si vous voulez. Voilà.
12 hommes en colère, hein, ça a été pour trouvé le coup, dans les studios. Donc, de Sidney Lumet, film de 57. Donc, avant le film d'Otto Preminger, grand classique du cinéma qui a été plusieurs fois repris aussi au théâtre parce que ça a l'avantage d'être un huis clos. Donc, ce sont 12 jurés qui doivent se prononcer donc, sur un fameux parricide.
Et qui a fait l'objet d'un remake, si je ne me trompe.
C'est probable.
Remake russe par Nikita Mikhalkov il y a quelques années, ou peut-être l'année dernière, qui s'appelait juste 12.
Mais
je ne sais pas dire 12 en russe.
Ouais. J'imagine que dans 20 ans, il y aura encore des remakes de ce film parce que voilà, enfin, il pose des grandes questions hein, sur, sur le déroulement de la justice et savoir comment être persuadé de la culpabilité de quelqu'un.
Je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux. Boxeur a ses entrées au commissariat central, des copains d'enfance. Il est alimenté en accident tous les matins.
Je peux te demander quelque chose?
Bien sûr.
Qu'est-ce que Boxer espère de moi, en clair?
Dégote l'affaire, retrouve la victime, arrange-toi pour faire signer avec le cabinet J. Lyman Stone, prépare le dossier, quoi.
Ok, il faudrait que je racole.
Qu'est-ce qu'on t'a enseigné en fac de droit?
En tout cas, pas à courser les ambulances.
Eh ben, apprends vite, sinon tu vas crever de faim.
Alors, nous avons entendu les voix françaises de Matt Damon et Danny DeVito.
Il s'agit de l'idéaliste de Coppola?
Oui, absolument. One point for
avec
Martin.
Aussi Mickey Rourke.
Et Mickey Rourke qui joue le responsable du cabinet d'avocats qui est quand même très lié à la mafia. Enfin voilà. Et donc c'est Danny DeVito hein, qui est à peine avocat mais qui joue parfois les avocats. Enfin qui va montrer au jeune Matt Damon comment on trouve des affaires. Donc il faut aller à l'hôpital à chaque fois. Enfin parce que voilà, il y a toujours quelque chose à plaider. Enfin parmi les blessés. Ainsi s'achève ce blind test. On pourra revenir à d'autres moments parce qu'il y avait plein d'autres films à choisir. Et puis, comme on a vu avec Marine Omar Mathieu qui va sortir le 20 juin, ce sera peut-être l'occasion de refaire un blind test sur, bien sûr, les procès au cinéma. Il y en a.
Mais on va délaisser un petit peu la justice et partir plus vers la mystique. Il y a 3 semaines, j'avais profité de la sortie en salle du nouveau film de Terrence Malick, The Tree of Life, et de sa sélection en compétition officielle au Festival de Cannes pour m'étendre largement et avec gourmandise sur la filmographie de ce réalisateur qui, avec seulement 4 films au compteur, est devenu une référence incontournable pour les cinéphiles du monde entier. Et paf, voilà-t-y pas qu'à peine j'ai eu le dos tourné que le père Malick a remporté la très convoitée Palme d'Or. Et oui, comme la semaine dernière, à l'heure où Robert De Niro essayait tant bien que mal de baragouiner en français le verdict de son jury, j'étais tranquillement en train de cueillir des cerises au fin fond de l'Ardèche, je n'ai pas pu commenter à chaud cette victoire et ce film. Mais bon, je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Alors dire que The Tree of Life était un film attendu relève de l'euphémisme. Comme toujours avec Malick, ce film a mis bien longtemps à voir le jour. En fait, dès 1978, quelques mois avant la sortie en salle des Moissons du Ciel, le réalisateur commence à travailler sur un nouveau projet intitulé sobrement Q. L'idée de départ était de faire un film choral, un drame ancré dans le Midwest américain au moment de la Première Guerre mondiale, avec aussi un important prologue sur la préhistoire. Dans une version plus avancée du scénario, la partie moderne est supprimée. L'intégralité du film doit alors retracer l'évolution de l'univers et la naissance de la vie sur Terre à travers le rêve d'une créature préhistorique, une sorte de minotaure endormi sous l'eau. Mais comme chacun sait, Malick ne mène pas ce projet à bout et disparaît pendant une vingtaine d'années avant de revenir sur le devant de la scène avec un film très différent, La Ligne Rouge. Alors aujourd'hui, The Tree of Life ressemble étrangement à une résurrection de Q, ce projet avorté il y a plus de 30 ans que le réalisateur aurait transformé pour n'en garder que certains éléments. L'histoire de The Tree of Life se développe sur trois périodes temporelles aux échelles très différentes. La première correspond à l'époque moderne et consiste en une journée de la vie de Jack O'Brien. La seconde est située dans les années 50 et couvre l'enfance de Jack, de sa naissance à son entrée dans l'adolescence. Enfin, la troisième période est beaucoup plus longue puisqu'elle débute avec le Big Bang et se prolonge jusqu'à la future destruction de la Terre, consumée par notre soleil mourant dans quelques milliards d'années. En imbriquant ces trois temporalités, l'ambition de Malick, c'était de faire un grand film sur la vie en général et celle des hommes en particulier. Alors, quelle peut être notre place dans ce monde en perpétuelle mutation? Qu'est-ce qui demeure vrai alors que tout change? Qu'est-ce que Dieu ou diable se cache-t-il? Les poissons peuvent-ils nous expliquer le sens de la vie? Voilà certaines des questions que pose Malick à travers ce film. Donc finalement rien de nouveau pour ce réalisateur qui a l'habitude de saupoudrer ses œuvres de grandes questions métaphysiques et de longues contemplations philosophiques. Sauf que cette fois-ci, Malick néglige la fable pour nous proposer un film moins romanesque et plus fragmenté. Dans ses précédents scénarios, l'histoire avec un petit H permettait aux spectateurs de s'identifier sans problème aux personnages et de plonger avec eux dans l'histoire avec un grand H. Dans La Balade sauvage, nous suivions la cavale meurtrière d'un jeune couple. Dans Les Moissons du ciel, le récit s'articulait autour d'un triangle amoureux particulièrement dramatique. Dans La Ligne rouge, des soldats devaient remporter une bataille importante de la guerre du Pacifique. Et enfin, dans Le Nouveau Monde, les personnages partaient à l'aventure, à tour de rôle, vers des territoires inconnus, sans parler de l'histoire d'amour impossible entre John Smith et Pocahontas. Dans The Tree of Life, le drame qui sert de support aux thématiques fétiches de Malick est réduit à sa plus simple expression. Un jeune garçon découvre l'existence avec tout ce qu'elle peut avoir de contradictions et de poésie. Le même, plus vieux, s'interroge sur sa place dans le monde. Et c'est à peu près tout. Cette légèreté du scénario est à mon avis un véritable obstacle à l'implication des spectateurs dans le film. Ballotté sans explication d'une époque à l'autre et plongé ponctuellement dans des digressions cosmogoniques sans rapport avec le reste du film, le public est censé se laisser aller à la contemplation et à la méditation, mais au final il doit surtout lutter contre l'ennui pendant de longues minutes en attendant que le drame progresse un tant soit peu. Donc face à ce patchwork d'images, d'impressions, de fantasmes et de symboles qui tiennent lieu de péripéties, nous sommes encore une fois accompagnés par plusieurs monologues en voix off, une des marques de fabrique du réalisateur. Mais alors que dans d'autres films, en particulier dans La Ligne rouge, Malick avait réussi à trouver un équilibre fragile, presque miraculeux, entre la voix off et les images, ici l'ensemble paraît artificiel et accumule les poncifs mystiques et New Age. Déjà dans Le Nouveau Monde, la balance subtile entre le mélodrame et les considérations philosophiques n'était pas aussi bien dosée que dans La Ligne rouge et tenait plus du procédé, mais ici on bascule carrément dans le laïus prétentieux à la limite du prosélytisme. Alors Malick serait-il en train de vieillir pour la première fois sa recette imparable à base de nature magnifiée, de drames humains et d'interrogations existentielles commence à sentir le réchauffer et ses thèmes récurrents ne sont plus traités avec subtilité mais avec de bons gros sabots. Donc en retraçant l'histoire de la vie dans ses grandes largeurs et en la confrontant à l'existence sans grand intérêt de son personnage, le réalisateur se répète et signe un film mineur qui ne mérite pas vraiment cette palme d'or, sans doute décernée plus pour l'ensemble de sa carrière que pour son dernier effort.
Eh bien, c'est ton avis, je ne le partage pas. Non, t'as raison hein, sur l'absence, peut-être même l'indigence du scénario, et à tel point que ce qui pourrait faire, enfin ce qui fait le drame en fait, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, je pense que Malick joue plutôt bien avec tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est avant tout une mise en scène, et puis il nous propose, eh bien, effectivement, d'aller avec lui dans l'émotion et dans un monde, quoi. Enfin, dans un monde. Alors après, qu'on n'y aille pas, ça, je
Bah, il prend le risque de laisser les spectateurs un peu sur le bas-côté en limitant au maximum cette fable. Et il n'y a plus vraiment de point d'accroche, plus d'identification, de vraie identification possible avec les personnages. Un des seuls personnages auxquels on peut s'identifier, c'est le personnage du père joué par Brad Pitt. C'est pas forcément un personnage particulièrement sympathique auquel on a tendance à s'identifier.
On pourrait s'identifier aussi au personnage de Sean Penn quand il est jeune, hein. Enfin, parce que lui, on le voit dans des situations où effectivement on reconnaît peut-être le bien, le mal. Enfin, voilà, il y a quand même toujours des questionnements et je trouve qu'il les apporte très très bien parce qu'il les apporte dans des séquences où à chaque fois il est confronté à l'autre. Alors, c'est soit à son père, soit à ses frères, soit à des camarades, notamment un petit garçon qui a les cheveux à moitié cramé, enfin, est-ce que je dois être son copain, est-ce que je dois lui tendre la main, enfin, il y a plein de questions qui arrivent comme ça, mais elles sont posées par la mise en scène plutôt que par les dialogues, ou même si la voix off effectivement la voix off renvoie à des questionnements, enfin, qui moi m'ont pas trop bercé non plus, hein, oui. J'avoue, enfin, c'est peut-être là où il y a du prosélytisme,
c'est vrai qu'il y a une certaine finesse quand il pose les questions justement uniquement par l'image, ou quand il provoque les émotions uniquement par l'image, mais là, dans ce film, j'ai trouvé qu'il y avait une juxtaposition assez artificielle entre des images qui sont censées faire sens et cette voix off qui rajoute en plus un autre sens ou des questions par-dessus. Je trouvais que c'était assez artificiel. Il y a aussi moi, j'ai eu l'impression que le film a été charcuté au montage. Je trouve qu'il y a un gros problème de montage dans ce film. Par exemple, toute la partie avec Sean Penn au début, on sent vraiment qu'il manque, que ça devait être beaucoup plus important dans une précédente version. Et là, on sent qu'il y a eu des coupes franches dans cette partie. Donc, voilà. Moi, je pense que aussi l'attente, moi, je trouve que Malick est un grand réalisateur. J'aime beaucoup Les Moissons du Ciel, La Ligne Rouge et son premier film, La Balade Sauvage. C'est sûr que attendre un film comme ça provoque sans doute un peu la déception. Mais voilà, je trouve qu'il se répète, qu'il sombre dans le procédé un petit peu avec ça, et puis il nous sert aussi quelques scènes kitschissimes comme cette séquence sur la plage qui ressemble à une pub Kenzo.
Ah oui,
à la fin où voilà la réconciliation, tout le monde est heureux. Enfin, ouais. il y a vraiment un côté kitsch. Qui fait un peu penser à The Fountain de Darren Aronofsky, qui était aussi un mélange de drame et de grandes interrogations philosophiques sur l'arbre de la vie. On retrouvait donc cette idée de fontaine de jouvence, etc. Mais au final, je trouve que... Enfin, j'ai des reproches à faire à Darren Aronofsky, mais je trouve que The Fountain est finalement presque plus fin que le nouveau Malick.
Moi, en tout cas, j'ai retenu... moi, c'est toutes les parties avec qui se passent en 59, dans les années 60, avec la famille, que j'ai retenu et qui sont mêlées avec les images de nature, voilà, qui nous emportent complètement ailleurs. Parce que le sujet, c'est la vie, hein, de toute façon. Alors après, il peut mettre ce qu'il veut. Donc, soit on est emporté avec lui, soit on n'est pas emporté. Après, ceux qu'il compare à, par exemple, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était aussi très métaphysique. Là, par contre, pour moi, c'est vraiment l'antithèse de 2001, à partir du moment où là, il y a vraiment l'émotion chez Malick, qu'il n'y avait pas dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein.
Peut-être plus chirurgical, chez Kubrick. En même temps, je trouve que ça fonctionne plus sur
peut-être, après,
toutes les scènes en images de synthèse, là où on voit une sorte de création des nébuleuses, etc. On retrouve un peu la bobine de 2001, où il plonge dans le monolithe dans la dernière partie du film. Il y a un peu ce côté là mais ça, je sais pas, je trouve ça fonctionne mieux chez Kubrick que chez Malick. Moi, ça m'a fait penser aussi à Mr. Nobody. Je sais pas si vous aviez vu ce film de Jaco van Dormael, qui était qui posait aussi plein de questions sur la vie, des questions philosophiques, etc. S'intéressait plus à la fin du monde, préoccupations eschatologiques sur le big crunch, plutôt que sur la naissance de la vie chez Malick. Donc voilà, moi c'est un film que je vous recommande pas particulièrement. J'aurais tendance à vous dire de découvrir plutôt les précédents films de ce réalisateur. Maintenant, Vincent...
Moi, je vous encourage à aller tenter le coup.
Je vais le voir la semaine prochaine. Hein.
Non, mais il faut tenter le coup après. Voilà. Moi, je sais que dans la salle, c'était partagé entre les gens qui disaient « Oh, c'est space quand même, mais c'est bien ». Et puis les applaudissements qu'il y a eu, parce que je pense que ça a parlé à quelques personnes. Alors après, effectivement, de ceux qui ont aimé le film, j'ai lu dans les critiques, c'est plutôt La Croix qui arrive en number one. Voilà.
parce qu'il y a des questions, qui nous ramènent à Dieu, ou à un, enfin, soit c'est un Dieu horloger, enfin, après on met ce qu'on veut derrière en tout cas.
Voilà, mais juste, il faut, je tiens à préciser quand même qu'on retrouve la beauté de la photographie, voilà,
ça, qui
est typique des films de Malick. Là, il y a des très très belles images quand elles ne sont pas empruntées à Home de Yann Arthus-Bertrand. Et les acteurs sont tous très bons, sauf Sean Penn, voilà, qui a une toute petite partition, donc il n'est pas non plus flamboyant.
Il est plutôt hébété dans le film. Voilà. Mais bon, après, il joue la voix.
À plisser les sourcils et à se poser des questions. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je vous renvoie à l'émission du 11 mai où j'avais fait ce dossier donc, sur l'intégrale de Terrence Malick. Et pour en finir avec ce sujet et vous quitter en musique, je vous laisse avec un extrait de la bande originale de Koyaanisqatsi de Geoffrey Reggio. Donc c'était un film documentaire sans parole qui retraçait aussi d'une certaine façon l'histoire de la vie sur Terre en confrontant la nature avec l'activité humaine. C'est une musique signée Philippe Glass et je vous laisse en sa compagnie.
Martin nous a quittés en nous mettant sa petite musique, donc on passe de la métaphysique
à la psychanalyse.
À la psychanalyse. Voilà, c'est parti.
Avec le complexe du castor de Jodie Foster, présenté au dernier festival de Cannes en ouverture.
Papa nous a quittés alors.
Il nous a pas quittés. Il valait mieux qu'on ne vive plus ensemble.
Un individu profondément déprimé. L'homme qui fut amoureux et fonda une famille. Cet homme-là a disparu. Impossible de le retrouver, mais il s'apprête à trouver sa voie.
Je suis malade. La vraie question, c'est est-ce que tu veux réellement guérir ? Qui es-tu ? Je suis le castor, Walter. Et je suis là pour sauver ta putain de vie.
Celui qui vous a remis cette carte a été confié à une marionnette thérapeutique, chargée de créer une distance psychologique entre lui et les aspects négatifs de sa personnalité.
Bonjour tout le monde, Walter Black démissionne et me nomme directeur général.
Le castor ?
Ça, c'est l'avenir.
J'aime bien comme tu parles, t'as une voix marrante.
Cette journée va te libérer.
C'est une blague ?
Non, fiston, c'est un nouveau départ.
Pourquoi tu viens pas avec nous ?
Une autre fois, mon grand. Une autre fois.
Tu sais, quand j'étais petit, mon grand rêve, c'était de devenir comme toi un jour. Et plus j'ai grandi, j'ai voulu devenir le contraire de toi.
Et maintenant ?
Tu vas parler comme ça jusqu'à la fin de tes jours, avec ta main ?
Donne-moi cette terre !
Vas-y, lâche-le !
J'ai guéri, Walter. Cet homme-là était une impasse, il a disparu.
Je me suis battu pour toi et je continuerai à me battre pour toi parce que je t'aime, Walter. J'ai été très patiente.
Oh.
Très compréhensive. Mais c'est toi que je veux, pas lui.
Voilà, donc c'était la bande-annonce du complexe du castor. Le troisième film de Jodie Foster qui aborde un thème assez inhabituel, la dépression masculine. Un sujet délicat à traiter, surtout lorsque l'on choisit pour le rôle principal Mel Gibson, symbole vivant de la virilité hollywoodienne et du héros qui gagne toujours à la fin. Au lieu de réaliser un drame banal accompagné de violons et de larmes, Jodie Foster a la subtilité de traiter cette histoire d'un point de vue déjanté. Walter, le personnage de Mel Gibson, se fait mettre à la porte de son foyer par sa femme, qui ne supporte plus son état dépressif critique. Tandis qu'il s'apprête à se suicider, il découvre une peluche en forme de castor qui va commencer à lui parler. Pas de plongée dans le fantastique néanmoins, le castor va être sa marionnette thérapeutique, un instrument que Walter fait lui-même parler, mais qui va lui permettre de dire ce qu'il n'avait jamais osé dire et de reprendre sa vie en main. Une fois que l'on a dépassé l'effet de surprise du scénario, le film commet l'impair de céder au sentimentalisme premier degré. Walter va miraculeusement remonter la pente, aussi bien au sein de sa famille que dans son entreprise. Le monde du travail à l'américaine est par ailleurs bien loin de l'ambiance suicidaire de France Télécom, puisqu'il ressemble plutôt ici au Club Med, un monde où tout le monde est heureux de travailler et tant pis si le patron est un quinquagénaire qui a son avant-bras enfoncé dans les fesses d'une peluche comme il le dit lui-même. Une vision idéaliste qui heureusement ne s'applique pas à la famille dans le film, une famille américaine très loin d'être parfaite, qui par ailleurs est devenue le nouveau sujet de prédilection du cinéma indépendant, avec des comédies comme Little Miss Sunshine ou The Kids Are Alright sortis récemment. Bien que le complexe du castor reste dans les rangs du cinéma commercial et que le traitement de son histoire soit loin d'être vraiment comique, la famille qui nous montre est sinon drôle, du moins décalée, avec un père dépressif qui s'endort partout puis devient complètement schizophrène, un fils aîné qui fait des trous dans les murs avec sa tête, un fils cadet qui s'efface tellement qu'il en devient vraiment invisible. Les acteurs qui entourent Mel Gibson ajoutent au charme du film, Jodie Foster elle-même, très rare au cinéma depuis quelques années, et surtout Jennifer Lawrence, la révélation de Sundance 2010 qui avait fait parler d'elle en tant que nominée à l'Oscar de la meilleure actrice pour Winter's Bone. La fin du film change encore radicalement de ton avec une plongée dans le drame et la folie, donnant bien, il faut l'avouer, l'occasion à Mel Gibson de prouver qu'il y a une vie et surtout du talent après 50 ans. Une performance d'acteur qui est le fruit de l'alliance entre deux figures emblématiques du cinéma américain, pourtant très opposées, tandis que Jodie Foster bénéficie d'une image intellectuelle démocrate, engagée mais discrète au cinéma avec des choix artistiques et élitistes, Mel Gibson lui souffre d'une image quelque peu malmenée par ses récents problèmes judiciaires et par ses prises de position réactionnaires. À l'instar d'un certain Tom Cruise, il fut dans les années 80 une référence du cinéma hollywoodien à grand spectacle avant de se perdre quelque peu à la fin des années 2000. La trilogie Mad Max fait décoller sa carrière, tandis que L'Arme fatale et ses quatre volets feront perdurer sa notoriété dans les années 90. Il tentera sans grand succès de se diversifier avec des rôles dans les films de guerre, des comédies dramatiques, voire même des westerns, comme le western parodique, Maverick, dans lequel il rencontre justement Jodie Foster. En parallèle, il se lance dans une carrière de réalisateur qu'il débutera avec L'Homme sans visage en 93, une histoire d'ermite défiguré qui ne va pas passionner les foules, le public s'avérant nettement plus conquis par la suite par Braveheart et ses 5 Oscars en 95.
Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et si Dieu le veut, fonder une famille.
Tu veux que je me marie avec toi?
C'est un peu soudain, mais d'accord.
Est-ce ainsi que tu demandes ma main?
Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse.
En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix.
Je veux rester ici avec toi.
Et moi avec toi.
Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troupes?
Si je peux vivre en paix, je préfère.
Mais ils attaquèrent son monde.
Édouard Ier dit le sec est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre.
L'Écosse. Mon Écosse.
Et la femme qu'il aimait.
Je veux un foyer, des enfants. Cela ne vaut rien si nous ne sommes pas libres.
Il doit se résoudre à la guerre.
Entrez en Angleterre et dites-le haut et fort.
Oui, voilà, c'était la bande-annonce de Braveheart, une bande-annonce qui est un petit peu vieillie, hein, tout comme la coupe de cheveux de Mel Gibson, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film. C'est un mélange d'écossais médiéval et de coupe à la Patrick Bruel. C'était assez réussi pour les années 90. Donc Mel Gibson ensuite va attendre quelques années et revenir dans un style très différent avec La Passion du Christ et Apocalypto, des films largement critiqués qui peuvent au choix transcender ou provoquer une sévère overdose de ralenti et d'effet tape à l'œil. Pas vraiment adepte de la sobriété, Cela s'applique aussi à sa vie privée. Ses deux derniers films sont aussi efficaces qu'indigestes, avec une esthétisation de la douleur particulièrement appuyée. Tout en restant très puissante visuellement, la manière dont il montre la torture du Christ ou les carnages chez les Mayas frise parfois le ridicule et peut provoquer plus de rire que de dégoût. Des accusations d'antisémitisme dues à la vision assez accusatrice des Juifs dans La Passion du Christ créeront aussi une polémique autour du film, avant d'être aggravées par la suite lorsque Mel Gibson sera arrêté pour ivresse et insultes antisémites. Ce ne sera pas tout, puisqu'il se fera aussi remarquer grâce à des propos homophobes et racistes. Malgré ses opinions extrêmes et le fait qu'il s'affirme républicain et conservateur, Mel Gibson affirmera avoir pensé son Apocalypto comme une parabole de la violence humaine, en faisant référence à George Bush et à la guerre d'Irak, à laquelle il s'est tout de même opposé. Comme pour accompagner le déclin de sa vie privée, ses rôles au cinéma deviennent des caricatures de sa carrière passée. Il joue dans Le Patriote de Roland Emmerich, le spécialiste des films catastrophiques, comme par exemple Godzilla, Indépendance Day. Il joue aussi dans Nous étions soldats, film de guerre qui replonge dans le patriotisme primaire duquel le cinéma américain tentait pourtant de sortir. Et comble de la déchéance, il interprète un pasteur qui retrouve la foi dans le premier film raté de Night Shyamalan, Signe, lui communiquant sa malchance puisque celui-ci ira ensuite d'échec en avait. Sa tentative d'aller vers la comédie romantique sera tout de même couronnée de succès avec Ce que veulent les femmes, un film qui n'a pas dû lui apprendre grand-chose puisqu'il a aussi été inculpé récemment pour violence conjugale. Son grand retour au bout de 8 ans sans premier rôle se fera dans Hors de contrôle avec un titre très à propos, un film d'action plein de muscles qui renoue, ou plutôt essaie, avec ses succès passés sans y parvenir cependant. Le complexe du castor, lui permet cette fois d'allier succès public et critique, mais il n'est pas sûr que les Oscars le couronnent pour ce rôle, en oubliant ses écarts de conduite.
Et en plus, s'ils lui donnent l'Oscar, ils devront le donner à la marionnette aussi.
Je précise quand même donc que Le complexe du castor est à voir, donc je le recommande quand même plutôt, c'est pas un mauvais film, à voir en VO au Gaumont Multiplex.
Ah d'accord.
Et Gaumont Comédie, les deux.
Oui. D'accord, il passe pas ailleurs alors du coup. Et
non.
Tant mieux en VO. Oui.
Ou parce peut-être
que,
au Royal.
Parce que Jodie Foster est capable, puisqu'elle parle très bien français, elle est capable de faire
c'est
ses.
C'est elle qui fait sa voix, oui, dans la version française, ouais.
Alors ainsi s'achève Cinérama, on va parler quand même de l'actu. Alors on devait vous passer une interview de Nicolas Alberi. Qu'on avait déterré d'une émission à l'occasion de la sortie du film Eighth Wonderland. Je ne sais plus quand c'était, mais c'était l'an dernier. Il se trouve que Martin l'avait interrogé par téléphone. Ce ne sera pas possible. Donc, on vous renvoie au podcast de l'émission sur le site internet www.divergence-fm.org. En revanche, on vous informe que demain 2 juin à 20h, il sera au cinéma Utopia. Et c'est Jean Mac, voilà, parce qu'ils sont co-réalisateurs. C'est Jean Mac qui sera présent à l'Utopia pour la projection de Eighth Wonderland avec cette question Internet et démocratie, la citoyenneté augmentée. Voilà. Ensuite, ce sera Ciné Attack Into Eternity de Michael Madsen. Je vous en ai déjà parlé. C'est le projet Onkalo, ce projet d'enfouissement de déchets radioactifs en Finlande pour les 100 000 ans qui viennent. Donc ça, ce sera au cinéma de Frontignan, le Ciné Mistral, demain à 20h30. Et puis lundi 6 juin à 19h40 au cinéma Diagonal, soirée Amnesty International avec à 19h40 Les Invisibles de Gaël Garcia Bernal, et puis à 20h10, Sin Nombre de Kari Fukunaga. C'est une séance suivie de débats animés par Ineke Wendel d'Amnesty International Montpellier. Et puis, passe toujours à l'Utopia, des films qu'on a largement chroniqués, Animal Kingdom, Juste entre nous, L'étrangère, L'homme d'à côté, La dame de Shanghai, Le discours d'un roi, Le secret de la pyramide, Les femmes du sixième étage, qui passe encore, ça prouve que ça marche, Où va la nuit, Pina, Tomboy, dont tu as parlé, Marine, et puis Tous les soleils. En revanche, celui-ci, on ne l'a pas chroniqué. Voilà. Mais il marche bien. Enfin, il a un vrai succès public et paraît-il que c'est plutôt réjouissant comme film. Et tant mieux, parce que c'est un film français, quand même. Voilà. Alors, merci Marine d'être restée jusqu'au bout. Martin ne sera pas là la semaine prochaine, donc nous serons en duo. J'ai pas regardé trop ce qui était sorti cette semaine.
Plein de choses. On aura plein de choses à dire.
Bah, j'espère bien. Et en tout cas, pour 24 notes par seconde, l'émission consacrée à la musique de film, ce sera un spécial Brian De Palma. On remercie Bruno à la technique. Et puis, à noter qu'à la fin de l'émission, l'extrait que j'ai choisi, c'est celui de La Vérité, film de Henri-Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot, voilà, qui est dans un tribunal. Hein, c'est pour faire la liaison avec le blind test avec lequel vous avez pu jouer aujourd'hui. C'était Cinérama sur Divergence FM. À la semaine prochaine.
C'était nous. On a été heureux comme elle le sera jamais. C'est pour ça qu'elle l'a tuée. Pour que je ne sois jamais heureuse. Elle a eu tous les hommes qu'elle a voulu. Tous. Moi, je n'avais que celui-là. Tu l'as jamais eu. Jamais. Il n'a même pas fait l'amour une fois avec toi.
Gaffe, faites sortir l'accusé.
Fais-toi 100 fois, tu entends 1000 fois. Mais tais-toi. Tu me l'as tué.
Non, je voulais pas, je voulais me tuer, moi.
Cinérama.
Pas lui, moi, je voulais me tuer, moi.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.